Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Cousins Théologiens. Je suis avec Benjamin. Comment vas-tu, Benjamin ?
Salut Maxime, écoute, ça va très bien. Ce beau jour d'été, alors qu'on enregistre maintenant, c'est l'été. Pas au moment où cet épisode sort, j'imagine, mais...
Ouais, donc on aura peut-être perdu une partie de notre bronzage d'ici à ce que ça sorte. Mais en tout cas, du repos pour toi en ce moment ?
Repos, mix de repos et de préparation des choses de la vie, et de vie d'église et de tout ça, mais c'est un bel été bien rempli de différentes choses, reconnaissant pour ça, ouais. Et toi, tu rentres là de tout juste de...
De Bosnie, de... ouais.
Bosnie, voilà.
Ouais, avec notre église, on a fait un séjour en Bosnie pour aider des missionnaires dans des travaux pratiques, et puis là, ouais. On est de retour... On se repose un peu de ça et on se prépare pour la rentrée aussi.
Trop bien.
Et puis, une bonne manière de se préparer, c'est évidemment de tourner les yeux vers les Écritures. Et c'est ce qu'on vous propose de faire dans ce podcast en abordant des attributs des Écritures, c'est-à-dire des caractéristiques, des choses qui caractérisent les Écritures. Alors, Benjamin, on a pensé à quatre caractéristiques. C'est toi qui me les as mentionnées et elles résument bien ce qu'on avait envie de dire. Alors, est-ce que tu proposes de les donner les quatre d'un coup ou l'une après l'autre ? Est-ce qu'on sort ton super acronyme tout de suite ou on le réserve pour la fin ?
Non, on peut l'annoncer et puis l'expliquer ensuite. Donc, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. Hein. C'est quelque chose qui... Et puis, les attributs eux-mêmes, c'est une manière assez classique en théologie de définir les attributs de l'écriture. Mais l'acronyme, c'est SCAN, S-C-A-N. Donc, peut-être on explique juste les quatre lettres et puis on y va une par une, Maxime, si ça va ?
Ouais, ça marche.
Donc le S, c'est pour la Bible est suffisante, la suffisance de l'écriture. Le C, c'est pour la clarté de la Bible, l'écriture est claire. Le A, c'est pour l'autorité de l'écriture, la Bible détient l'autorité. Et le N, c'est pour la nécessité de l'écriture, la Bible est nécessaire. Donc ça, c'est quatre vérités qu'on peut affirmer par rapport à la Bible et qui nous aident à mieux comprendre ce qu'est la Bible. Alors peut-être prenons la première, la suffisance. Mm-hmm. Je dis quelques mots dessus et puis Maxime, je te laisse compléter, échanger et puis on discute de comment voir... Tout ça, ce que ça implique pour nous. Mais quand on dit que la Bible est suffisante, la suffisance de l'Écriture, on veut dire que Dieu, dans la Bible, nous a donné tout ce dont on a besoin pour être sauvé et pour vivre une vie qui lui est agréable. Donc on dit que la Bible est suffisante pour le salut et pour la vie chrétienne. La Bible est suffisante pour savoir comment être en bonne relation avec Dieu. C'est la Bible qui nous révèle le problème de notre péché et le moyen d'être sauvé du jugement qu'on mérite en Christ par la foi en sa mort et en sa résurrection. Mais la Bible est aussi suffisante pour vivre la vie chrétienne, pour savoir ce que Dieu attend de nous, comment vivre en tant que disciples de Jésus. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a rien dont on ait besoin, il n'y a rien dont on ait besoin que Dieu ne nous ait pas donné dans la Bible. S'il y a quelque chose dont on a besoin pour être sauvé, pour vivre la vie chrétienne, alors c'est contenu dans la Bible, c'est contenu dans ce que Dieu nous a révélé, parce que la Bible est suffisante. Et on voit ça peut-être à un texte pour nous aider à comprendre ça, il y en a plusieurs qu'on pourrait mettre en avant, mais c'est quand il est parlé, c'est un texte sur lequel on revient souvent quand on parle de la doctrine de l'écriture, 2 Timothée 3, 16 et 17, quand il nous est parlé du caractère de l'écriture, il nous est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Donc ça c'est tous les buts de ce qu'accomplit l'écriture. Mais ensuite verset 17, on voit le but ultime de tout cela, pourquoi Dieu a donné tout cela ? Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Ou plus littéralement, on pourrait dire, afin que l'homme de Dieu soit complet et pleinement équipé pour toute œuvre bonne. Donc en gros, au travers de l'écriture, au travers de la révélation de Dieu, qui constitue les 66 livres que l'on a dans la Bible, Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin pour être pleinement équipé, pour vivre une vie qui lui est agréable. Ça, c'est comme ça que je définirais la suffisance de l'écriture. Maxime, des choses à compléter dans la définition ? Ou des choses que tu voudrais préciser ?
Ouais, bah, je pense qu'il y a une période historique qui nous aide à mieux comprendre la suffisance de l'écriture, puisque ça a été sujet d'ardents débats à cette époque. C'est évidemment la réforme. Et un sens spécifique dans lequel les réformateurs disaient que l'écriture était suffisante, c'est que tous les dogmes, c'est-à-dire toutes les vérités que l'on a besoin de croire, qui constituent l'évangile, pour être sauvés, sont contenus dans les écritures. Et pourquoi ils disaient ça ? Parce que en face d'eux, leurs opposants prétendaient que certaines vérités qu'il était nécessaire de croire pour être reconnu comme un vrai chrétien n'étaient pas contenues dans les Écritures et que c'était comme ça, c'était pas un problème, le christianisme fonctionnait comme ça. Je pense par exemple à l'Assomption de Marie, il est jamais dit dans les Écritures que que Marie est montée au ciel, eh ben, plusieurs docteurs catholiques vont dire c'est pas un problème, Dieu nous l'a appris par d'autres moyens. Et les réformateurs ont très justement rappelé que tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il est nécessaire de croire pour être sauvé est contenu dans les Écritures et on ne peut pas aller chercher des dogmes ailleurs. Donc ça, je pense, c'est une précision importante. Et puis une autre, c'est peut-être ce que la suffisance de l'Écriture n'est pas. La suffisance de l'Écriture ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sciences, d'autres sources de connaissances sur la vie. Moi, j'ai étudié la médecine, Benjamin a étudié des choses pour faire du web design. C'est pas dans la Bible qu'on les a appris. La Bible a des choses, des principes intéressants à livrer pour toute source de connaissances. Mais là, ce qu'on appelle suffisance, c'est pas dans un sens absolu pour tous les domaines de la vie, mais pour mener une vie pieuse, une vie qui plaît à Dieu dans toutes les autres sciences aussi. Et puis une autre chose, là c'est une précision peut-être plus philosophique, mais dans le sens où l'écriture suppose des choses, elle suppose qu'on connaît certaines choses déjà. Quand elle nous parle d'arbres, quand elle nous parle du monde, quand elle nous parle, elle nous décrit des choses, elle suppose qu'on connaît ces choses-là, donc elle fait appel au monde que Dieu a créé. Et c'est pour ça que les théologiens qui parlent de la suffisance de l'écriture ne nient pas que par ailleurs, Dieu a créé un monde qui nous apprend des choses et qui nous aide même à comprendre la Bible, le monde créé, la création. Néanmoins, comme on le verra, je pense, quand on parlera du N, ça note pas la nécessité de l'écriture. Il y a des choses qu'on apprend que dans la Bible et c'est pour ça qu'elle était nécessaire.
Ouais. Vous avez assez de bonnes précisions et peut-être pour compléter un peu ta deuxième précision là, une autre manière de mal comprendre la suffisance de l'écriture, ce serait de penser que ça veut dire que la Bible répond de manière directe à toutes mes questions sur la vie chrétienne ou sur la foi ou toutes questions que j'aurais en général. Et donc voilà, je me demande bah, qui est-ce que je dois épouser? Ah bah c'est dans la Bible que je vais trouver une réponse directe à cette question-là. C'est pas ça que signifie la suffisance de l'écriture, c'est pas que la Bible répond de manière directe à toutes nos questions, mais c'est que la Bible nous donne toute la sagesse et les principes dont on a besoin pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Qu'il n'y a rien qui nous manque et il n'y a rien qu'on a cherché ailleurs. Et donc, oui, y compris pour des grandes décisions de la vie, comme le choix d'un conjoint ou le choix d'un métier ou toute autre chose, la Bible sera suffisante pour cela, dans le sens que la Bible va nous révéler la sagesse dont on a besoin, va nous donner les grands principes, va nous donner un cadre, une vision chrétienne du monde à avoir, qui va ensuite nous aider à faire les bons choix et à profiter, comme tu l'as mentionné, d'autres sciences qui existent dans ce monde et de la sagesse des autres et du bon sens et de différentes choses que Dieu nous donne pour prendre ces décisions-là. Donc ça, ce sera des mauvaises manières de comprendre. Et je pense qu'on le comprend bien, la suffisance de l'écriture, en fait, c'est tellement rassurant. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas caché des choses dont on a besoin pour lui plaire. Il a révélé tout ce qu'on a besoin. Et donc, ce n'est pas comme si nous, on allait devoir essayer de discerner par nous-mêmes ou moi, je sais pas, de nous coller aux arbres pour essayer de découvrir la voie de Dieu ou la volonté de Dieu pour nos vies, etc. Non, en fait, Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin dans la Bible et c'est suffisant. Et donc, notre rôle maintenant, c'est d'ouvrir la Bible, de faire chauffer nos cerveaux et d'avoir des cœurs attentifs pour écouter ce que Dieu veut nous dire.
Et ça doit nous garder de l'envie d'avoir accès à une science secrète, des choses que les autres ne connaîtraient pas, une manière spéciale d'accéder à la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu a décidé d'œuvrer. Une autre chose que je mentionne en passant, c'est que la suffisance de l'Écriture, c'est ce qui fonde l'unité de la foi des chrétiens au travers des âges. C'est ce qui fonde le fait que demain, il n'y a pas un docteur qui va arriver et révéler un nouveau dogme que les chrétiens des âges précédents ignoraient et que maintenant on va devoir croire. C'est aussi une des critiques que les réformateurs formulaient à l'égard des catholiques, c'est vous croyez quelque chose que même vos docteurs il y a quelques siècles ne croyaient pas. Et maintenant, si on ne le croit pas, on est même plus digne d'être considéré comme chrétien. La suffisance de l'Écriture fonde le fait que c'est la même foi qui traverse les âges, parce qu'elle nous est révélée par un seul moyen.
Ouais, tout à fait. Très... Excellent. Alors, beaucoup qu'on pourrait dire là-dessus. On passe au suivant, Maxime ?
Ouais, alors la clarté. Qu'est-ce que tu veux dire par la clarté, Ben ?
Exactement. Donc, la clarté de l'Écriture, ça veut dire que... Alors, ça veut pas dire, peut-être c'est utile de commencer en disant ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que tout est simple dans l'Écriture et que quand on ouvre la Bible, à la première lecture, on va tout comprendre de la première lecture. Parce qu'on sait que ce n'est pas le cas. Et l'Écriture elle-même reconnaît cela dans 2 Pierre 3, 15 et 16. Pierre lui-même dit qu'il y a dans les écrits de Paul des passages difficiles à comprendre. Donc, ça ne veut pas dire que la Bible est simple ou facile à comprendre ou que... Voilà, on va tout comprendre à la première lecture. Mais ça veut dire que ce que Dieu nous enseigne et accessible, et toute personne qui se met à l'écoute de la Bible avec un cœur sincère, pourra entendre Dieu lui parler au travers de l'Écriture. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Dieu se révèle de manière à être compris. Quand Dieu se fait connaître, il le fait de manière parfaite. C'est pas comme quand moi, je rencontre quelqu'un qui est allemand, par exemple, et j'essaie de lui parler allemand en puisant dans mes lointains souvenirs, très lointains, des cours d'allemand du collège où j'étais pas très attentif. C'est compliqué de me faire comprendre. J'essaie de communiquer, mais c'est pas du tout clair ce que je dis. Et c'est pas comme ça. Quand Dieu se révèle, il le fait de manière à être compris, il le fait de manière parfaite. Et donc, ça veut dire que quand on ouvre la Bible, qui est sa révélation, là où Dieu s'est fait connaître, là où Dieu a parlé, alors si on le fait avec un cœur sincère, si on le fait avec une écoute suffisante, si on prend suffisamment le temps de s'y arrêter, alors on pourra entendre Dieu nous parler. Alors on comprendra ce que Dieu nous apprend concernant le salut et concernant la vie chrétienne.
Excellent.
Des choses que tu ajouterais à ça, parce que c'est pas évident de définir la clarté de l'écriture, on entend parfois différentes définitions, mais ouais.
Je rajouterais, je pense, deux choses. La première, par rapport au passage que tu as mentionné en 2 Pierre 3,15, c'est que Pierre dit que certains passages des épîtres de Paul sont compliqués à comprendre. Il dit pas que toute la Bible est floue. Donc
Ouais.
il faut garder ça. Oui, il y a des passages compliqués à comprendre, mais la Bible ne parle pas d'elle-même comme une somme de propos compliqués voilà, dont le sens ne serait pas évident. Donc ça, ce serait une première chose à garder en tête. Il y a des passages compliqués, mais il ne s'agit pas de toute la Bible. Deuxièmement, la Bible a été donnée à un peuple, l'Église, et elle est claire, mais elle n'est pas conçue pour être lue tout seul. Comme ça, se guider avec sa Bible, elle est conçue pour être lue dans une église locale, avec d'autres chrétiens, avec des personnes aussi qui ont été données à l'église, qui sont chargées d'expliquer la Bible, de la prêcher. Et c'est là aussi que sa clarté se manifeste. Dieu nous a pas simplement donné un livre, mais il nous a aussi donné, comme le dit Éphésiens, des pasteurs, des gens qui ont des dons pour enseigner l'Église, et sa clarté se manifeste aussi dans ce contexte, et non pas uniquement quand on est soit dans sa chambre en lisant la Bible, même si c'est une très bonne pratique, et on vous a encouragé déjà dans ce podcast à l'adopter. Néanmoins, elle doit aller de pair avec la communion fraternelle et la vie dans une Église, puisque c'est là que la parole aussi se fait entendre, et c'est à l'Église, à un peuple qu'elle se destine. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Tout simplement, quand on ouvre le Nouveau Testament, c'est flagrant qu'un grand nombre des livres s'adressent explicitement à une église dans une ville. La Bible s'adresse à un peuple, les prophètes écrivaient au peuple d'Israël. Les parties de la Bible qui s'adressent à une personne sont en fait assez minoritaires, assez rares. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là aussi que la clarté de l'écriture doit se comprendre.
Tout à fait, ouais. Excellent. On pourrait parler encore beaucoup de ça, mais je pense qu'il faut avancer vu qu'on a deux encore attributs qui nous restent.
Ouais.
Donc ça c'est la clarté, donc SC, et ensuite le A pour l'autorité de la Bible. On a déjà fait un épisode là-dessus, donc on peut vous renvoyer là-dessus pour en savoir plus. On va quand même dire quelques mots là-dessus, vous inquiétez pas. Mais quand on dit que la Bible a l'autorité, c'est un peu le fondement dans un sens de tous les autres attributs qu'on met en avant. C'est vraiment pour dire que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Et pas dans le sens que la Bible est un livre plus important, ou voilà, juste c'est quand même un peu plus important que les autres, ou qui est au premier rang et les autres sont au deuxième rang, etc. Non, c'est plutôt pour dire que la Bible est dans une autre catégorie. Parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est le seul livre qui possède l'autorité divine. Dans 2 Timothée 3,16 qu'on a lu, il est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et ici, littéralement, ce qui est dit, c'est que toute l'écriture est soufflée de Dieu. Elle vient de la bouche de Dieu. Donc dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Oui, c'est les auteurs humains qui ont écrit, Paul qui écrit des lettres, Pierre, Jérémie qui fait des prophéties, etc. Mais on sait que ultimement, c'est pas de leur propre volonté, de manière indépendante, qu'ils ont écrit, mais c'est Dieu qui les a utilisés pour communiquer exactement et précisément ce que lui voulait communiquer. 2 Pierre 1, 20 et 21 nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'était leur style, leur différence, leur volonté à eux, dans un sens qui a fait qu'ils ont pris la plume. Hein. On lit par exemple le début du livre de Luc, et ça a l'air très humain dans un sens. C'est Luc qui dit, ah ben voilà, j'ai voulu écrire un récit, je me suis renseigné, etc. Mais ultimement, le mécanisme derrière, c'est que Dieu a agi par son esprit pour faire en sorte que Luc écrive exactement et précisément ce qu'il voulait communiquer. Et c'est le cas pour la Bible entière. Et donc, quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Et c'est pour ça que la Bible est la parole de Dieu, qui vient de la bouche de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible détient l'autorité finale et ultime sur tous les sujets sur lesquels elle s'exprime. Quand la Bible parle d'un sujet, il n'y a pas à se poser la question est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on doit croire ça ou pas? Non, on doit s'y soumettre et y obéir parce que c'est la parole de Dieu. Et donc c'est ça qui la raison pour laquelle on parlait de la suffisance, qu'on accepte certains dogmes et pas d'autres et qu'on veut accepter les dogmes qui sont dans l'Écriture, c'est en raison de ça, parce que les dogmes que l'Écriture met en avant possèdent l'autorité de Dieu.
Exactement, ouais. Et je pense que cette autorité, le fait que parfois on pourrait se poser la question, mais pourquoi après tout on insiste sur le fait que c'est sur la suffisance de l'Écriture? En fait, il faut comprendre que c'est la position qui va de soi, en quelque sorte. Si la Bible vient de Dieu, alors elle fait autorité, et toute autre autorité doit démontrer. Toute autre chose qui voudrait s'élever à ce niveau devrait démontrer qu'elle aussi vient de Dieu, elle aussi a du poids. Donc on n'a pas besoin de... l'argument pour lequel l'Écriture est suffisante découle naturellement du fait qu'elle est revêtue de l'autorité de Dieu. Si vous voulez, c'est comme une ville, l'Église, qui serait gouvernée par un roi qui serait absent et qui gouvernerait par des décrets qu'il aurait envoyés à cette ville. Et si ces décrets viennent effectivement, portent effectivement le sceau du roi, alors ils font autorité. Et dès que quelqu'un voudrait avancer un autre décret qu'il ne porte pas son sceau, ce serait à lui de démontrer qu'on doit s'y fier. Parce que c'est uniquement ce qui vient du roi qui fait autorité. Et il faut comprendre aussi par ce moyen que même si l'Église reconnaît l'autorité de l'Écriture et s'y soumet, ce n'est pas l'Église qui confère à l'Écriture son autorité. C'est le sceau du roi, c'est le fait que les écrits soient inspirés de Dieu. L'autorité, autrement dit, est intrinsèque, elle est interne au texte. Elle est fondée sur la façon dont Dieu nous a donné ce texte, c'est-à-dire par l'inspiration que Benjamin a décrit.
Ouais, excellent, très bonne précision. Alors, okay. On termine juste avec la nécessité, donc le N, scan, nécessité. La Bible est nécessaire pour le salut et pour la vie chrétienne. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir comment être sauvé et comment vivre une vie qui plaît à Dieu sans la Bible. La Bible est nécessaire pour cela. C'est vrai, comme tu l'as dit, Maxime, on peut apprendre des choses en dehors de la Bible. Et la Bible elle-même reconnaît cela. On parle de la révélation générale. On voit ça dans Romains 1, les versets 20 et 21, que Dieu s'est révélé par ce qu'il a créé. Au travers de la création, on ouvre les yeux, on apprend certaines choses sur Dieu. On apprend qu'il existe, on apprend sa gloire, sa divinité, etc. Mais ce qu'on peut apprendre sur Dieu par la révélation générale est limité. Et on ne peut pas savoir comment être sauvé. On ne peut pas savoir... On n'apprend pas le pardon des péchés en regardant un arbre. On a besoin d'une révélation écrite et plus précise et plus détaillée pour cela. Et c'est ça que contient la Bible. C'est la révélation qui vient de Dieu, ce qu'on appelle la révélation spéciale, où Dieu nous montre la réalité de notre péché, du jugement et du salut qui se trouve en Christ, mais aussi comment vivre une vie qui l'honore et qui lui est agréable. Et la Bible est nécessaire pour savoir ces choses. Et ça ne veut pas dire que c'est la Bible sous forme écrite, qu'on doit avoir chaque personne individuellement dans ses mains, mais c'est le message que la Bible enseigne. Et donc c'est le message de la Bible sous toutes ses formes, parce que cette révélation que Dieu a consignée dans la Bible est nécessaire. Et ensuite, c'est cette révélation qui doit être partagée, enseignée de différentes manières.
Et je pense qu'une des applications pratiques évidentes de cette vérité, c'est le besoin d'évangéliser, le besoin d'annoncer l'évangile. On ne peut pas se reposer en se disant « Ah, les hommes ont tous le soleil, les arbres, la création de Dieu, qu'ils comprennent. Ils comprendront peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il faut lui rendre un culte et peut-être qu'ils sont pécheurs et coupables, mais ils ne trouveront pas la solution si la parole ne leur est pas annoncée. » Et Paul le dit très clairement en Romains 10, « Comment croiront-ils si personne ne leur annonce ?» Et je pense que la nécessité de l'Écriture, c'est aussi la nécessité de la prédication, en fait, qui se trouve dans cette doctrine.
Amen. Donc voilà, les amis.
Ouais, voilà, scan. Donc en quatre lettres, vous pouvez retenir et vous redire ce qu'on a essayé de vous transmettre sur les Écritures. On espère que ça vous encourage à les lire vous-même, à être attentif aux prédications qui vous sont données. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt, les amis.
Au revoir.